Bonjour à tous, dernier numéro de cette équipe de la saison avec un grand tour d'horizon de ce qui s'est passé ces 5 derniers mois en Super League. Et avant ça, un grand tour d'horizon des consultants et des journalistes qui seront là à mes côtés aujourd'hui. Nous avons pour Blue Sport Mickaël Bignon. Merci Mickaël de nous rejoindre. Salut.
Avec plaisir, salut.
Pour Sport Center, Daniel Vivantini.
Salut tout le monde.
Et Valentin Schnorck.
Salut à tous.
On va commencer, avant d'entrer dans ces 5 derniers mois de compétition, par l'une des petites polémiques du week-end, pas grand-chose, mais quand même. Jean-Pierre Nsame qui a passé une bonne heure sur le banc de touche de Young Boys ce week-end contre Stade Lozanouchi. On sait qu'il chasse le record absolu de buts en Super League. Raphaël Vicky a préféré le faire démarrer ce match-là sur le banc. Et ça l'a un peu énervé. Il s'est demandé quel attaquant de sa stature accepterait de passer autant de temps que ça sur le banc. Tu comprends ces propos, Daniel ?
Oui, bien sûr que je les comprends. Jean-Pierre, en plus, c'est quelqu'un que je connais très bien. Il est passé par Servette. Pardon, on est toujours resté en contact depuis qu'il est à IB. Et c'est un joueur qui veut jouer comme tous les joueurs. Et le problème, c'est que quand on met un joueur sur le banc, mais qu'il est en pleine forme et qu'avec un temps de jeu réduit, il est meilleur que ceux qui sont titulaires ou que d'autres dans d'autres clubs, eh ben, il y a des interrogations qui sont soulevées. Et il ne faut pas se leurrer. Jean-Pierre Nsame, quand il dit ça, quand il va frontalement contre une décision de son club et de son entraîneur, c'est parce qu'il y a un message derrière. Il n'est pas stupide, Jean-Pierre. Tout cela est bien réfléchi. Et s'il dit ça, c'est parce qu'il veut faire bouger les choses, bouger les lignes, peut-être s'ouvrir une porte pour un départ. Et à ce sujet-là, eh ben, on peut savoir et on sait que Servette est en contact avec Jean-Pierre Nsame. Il l'a déjà été il y a cet été, l'été dernier aussi. Il y a toujours eu des problèmes liés au prix qui était, d'un transfert qui était problématique. Il faut croire que le cas Jean-Pierre est toujours dans le pipeline entre Servette et IB et que peut-être que cette phrase-là, elle est à prendre dans la globalité de ce mouvement-là qui pourrait être opéré parce que Servette se cherche un attaquant. Et ça, c'est vrai aussi.
En fait, que Jean-Pierre Nsame n'a pas forcément sa langue dans sa poche. Valentin, ça t'évoque quoi, tout ce cas ?
Je pense que le cas Nsame, là, il a un cas qui, au fil des années, est devenu de plus en plus complexe parce que ça fait, on le savait qu'il y a 4 ou 5 ans, il avait très envie de partir, très envie d'aller taper un grand championnat européen. Souvent, il n'a pas eu les offres. Souvent, IB a aussi demandé en tout cas, il n'a pas eu les offres pour aller dans un des Big Four ou Big Five. IB était aussi assez gourmand. Quand il a eu l'opportunité de partir, il est parti en prêt à Venise et ça n'est pas forcément très bien passé. Ils ont été relégués et c'était juste après sa grosse blessure au tendon d'Achille en plus. Donc voilà, ballant, tout ça fait que Jean-Pierre Nsame aujourd'hui, il a 30 ans, que c'est compliqué de savoir. On sait qu'il est tout à fait performant en Super League, que s'il devait partir dans un autre club de Super League, il renforcerait n'importe quel autre club de Super League, même si après, c'est une question de stratégie. Est-ce que tu veux miser sur un joueur comme lui ou pas ? Et par contre, pour l'étranger, il est beaucoup moins intéressant à son âge. Et je pense que quand même, si IB l'a fait jouer, si Vicky l'a fait jouer l'autre jour contre Leipzig en Ligue des Champions, c'est aussi pour lui donner un petit peu d'exposition. Et s'il ne joue pas par contre contre Zanouchi, c'est parce que c'est le match contre Leipzig qui compte le plus pour essayer de le vendre. Et on arrive peut-être au dernier moment où on peut obtenir, allez, je ne sais pas, un million et demi, peut-être 2 millions avec Jean-Pierre Nsame. Donc voilà, il y aura un moment où il faudra quand même que les deux, que Nsame et IB se séparent. Est-ce que ça arrivera cet hiver ? Est-ce que ça arrivera plus tard ? Et comment ça arrivera, mais je comprends la complexité du cas, en tout cas.
Mickaël, ça nous fait une bonne transition pour parler de Servette. Est-ce que Jean-Pierre Nsame à la pointe de l'attaque de Servette d'ici quelques semaines ou quelques mois, ça te paraît crédible et cohérent ?
Crédible et cohérent, je ne sais pas. Disons que le cas Chris Bedia peut aussi avoir un rôle sur l'arrivée ou non d'un Jean-Pierre Nsame. Après, comme l'a très bien dit Valentin, pour Servette, on ne peut pas cracher sur Jean-Pierre Nsame, même si on a déjà un Chris Bedia dans l'effectif. Donc, en fonction du prix qu'il va coûter, ce sera de toute façon une bonne chose pour un club comme le Servette FC. Après, justement, moi, ce cas Chris Bedia, je ne sais pas trop s'il est capable de déjà aussi tout d'un coup s'en aller cet hiver, étant donné qu'il est en fin de contrat, en fin de saison, ou va-t-il prolonger ? Ça, j'y crois moyennement. En tout cas, prolonger maintenant, j'y crois moyennement. Du coup, je pense que ça va quand même jouer un rôle assez grand concernant le cas Jean-Pierre Nsame à IB, qui a quand même Ouais, je trouve la gestion de son cas à Young Boys n'a pas été top parce qu'on l'a mis derrière Eton, ça je veux bien. En gros, les 6 premiers matchs de Ligue des Champions, que ce soit contre Haïfa ou les 4 premiers matchs de groupe, qu'il ne soit pas titulaire, je peux le concevoir. Mais c'est vrai qu'après, quand Eton est blessé et puis que tu continues quand même à le mettre sur le banc, c'est qu'il y a pour moi un autre souci là derrière et que ce n'est pas juste le joueur qui est jugé, je pense.
D'ailleurs, bah, oui, Daniel, je t'écoute.
Oui, oui, le cas Bedia est forcément lié à celui de Nsamé, d'autant plus que, voilà, maintenant, les tractations sont toujours en cours. Comme on le sait, Chris Bedia est en fin de contrat en juin 2024 avec Servette. Financièrement, il n'a pas un immense intérêt à re-signer et à prolonger avec Servette, parce que Servette ne va pas vouloir se passer de Chris Bedia et ne va pas en faire un exemple en le mettant sur le banc s'il ne prolonge pas avec Servette. Et donc, il sera d'autant plus attractif pour un club qui voudra lui signer un gros contrat sans prime de transfert. Cela dit, maintenant, Chris Bedia, d'après nos informations, vient de changer d'agent. Ce n'est plus Michael Beck qui est son agent, mais un gros consortium d'agents américains basé à Londres avec un gros pouvoir persuasif et de prospection pour trouver un club. Est-ce que ça va changer la donne? Je crois savoir que Servette, dans l'état actuel des négociations avec Chris Bedia, lui a fait une proposition de prolongation avec un salaire surévalué, bien sûr, et surtout avec une clause de libération en cas d'offre de l'étranger. Et ça pourrait peut-être éventuellement faire basculer la chose si la clause n'est pas trop élevée. Et à ce moment-là, Chris Bedia pourrait éventuellement prolonger. Cela dit, Servette, maintenant, s'il s'intéresse à Nsamé et à d'autres, Nsamé, ce n'est pas le seul, hein, c'est bien évidemment dans le cadre de l'anticipation qu'il faut avoir en vue d'un départ tout à fait probable de Chris Bedia, que ce soit à la dès cet hiver, ce qui serait une très mauvaise nouvelle pour Servette, ou alors pour la saison prochaine. Voilà, il y a un sens de l'anticipation qui est nécessaire et qui explique un peu tout ça aussi.
À quel point d'ailleurs, maintenant que Servette a conclu son premier tour à une bonne quatrième place dans le wagon de tête, etc., ça fait plusieurs saisons qu'il joue le podium, qu'il joue l'Europe, à quel point Servette est devenu, enfin, l'adresse Servette a gagné en crédibilité aux yeux des joueurs durant un mercato. Valentin, je te pose peut-être la question à toi.
Je pense que ça commence à prendre beaucoup d'importance et surtout on sait que bah, qu'à Servette on peut donner des salaires qui sont importants. Enfin, l'engagement de Guimeneau l'année passée, l'été dernier, on a la preuve. Servette est une adresse qui va compter. C'est une adresse qui est ambitieuse, qui a envie de jouer la Coupe d'Europe, qui est prête à mettre les moyens aussi pour jouer et être compétitif pour jouer la Coupe d'Europe, qui vise le titre, pas forcément cette saison, mais qui veut être un candidat au titre pour les prochaines années. Donc évidemment que ça va être un club qui va compter, et dans ce sens-là, je peux comprendre que eBay n'ait pas très envie d'envoyer Nsamé à Servette, en tout cas pas selon contre un certain montant, parce que Servette est en train de se dessiner comme un concurrent sérieux pour les prochaines années, et je pense que si Servette a envie d'aller chercher les joueurs en Suisse, dans des clubs suisses, il aura un pouvoir d'attraction pour le faire. Par contre, ça va coûter, ça commence à coûter cher, donc je ne suis pas non plus persuadé que Servette va aller chercher beaucoup de joueurs en Suisse, mais il y a un effectif qui est appelé à s'étoffer encore plus. Il y a des postes qu'on peut cibler pour être renforcé au milieu notamment, en devant aussi, peut-être pour avoir un quatrième attaquant, ça pourrait être pertinent. Mais donc voilà, Servette, je pense que Servette a abordé ce deuxième tour avec l'idée qu'il peut jouer très très haut.
Oui, puis la crédibilité, elle vient aussi du fait que Servette, cette année, a réussi l'exploit de se qualifier pour les phases de poule de l'Europa League. Alors ok, ils prennent 4-0 à Rome ou 4-0 à Prague contre le Slavia, c'est pas très grave. Servette s'est qualifié ensuite via ses résultats en faisant 5 points dans ce groupe pour les 16e de finale de la Conference League. C'est important, ça fait 8 ans que deux clubs suisses n'étaient pas conjointement qualifiés pour le printemps. Et ça, ben ça se remarque aussi à l'étranger. Servette est redevenu quelque part le Servette de Genève, comme on dit en France, qui a quelque chose de une espèce d'aura européenne, un nom, et voir Servette revenir à ce niveau-là, disputer une phase de groupe de l'Europa League et ensuite continuer son parcours, eh ben, ça accrédite un petit peu la thèse que ce Servette est revenu à un certain niveau et qu'il peut intéresser comme adresse un joueur qui voudrait se relancer, même un bon joueur qui viendrait, et si Servette s'en donne les moyens.
En fait, je pense que Servette est en train de redorer son blason parce que j'étais à Prague cette semaine et ça, à Prague, ils parlent plus des problèmes financiers qu'il y a eu au début des années 2000 que du Servette de l'époque qui était un grand Servette FC. Donc pour eux, le Servette FC, c'est un club qui a eu des problèmes financiers et qui est en train de devenir un club correct sur la scène européenne. Tout le passé, ils l'ont oublié. Donc je pense qu'ils ont besoin, bah là, ce qu'ils ont fait cet automne, ils ont besoin de ce genre de performance pour redorer ce blason et retrouver. Être une deuxième ou troisième adresse sur le plan helvétique. Et autre point, je pense que gentiment, maintenant qu'on a 12 équipes dans notre championnat, tu as aussi quand même des nivellements différents au niveau des équipes et on va certainement voir des équipes de deuxième partie de tableau, enfin des joueurs de deuxième partie de tableau s'intéresser à un club comme le Servette FC. Avant, quand tu étais à Lucerne, quand tu étais à Winterthur ou quand tu étais à Guetze, voilà, Guetze c'est encore différent, mais tu allais à IB, tu allais à Bâle si tu étais au-dessus du lot. Là, peut-être que Servette va devenir une adresse intéressante pour ces joueurs-là.
Bah oui, je rappelle d'ailleurs que René Weiler, quand il est arrivé au milieu des années 90 à Servette, avait une offre ferme très intéressante de Grasse-Pierre et il a dit non, je vais à Servette. Servette, c'était un vrai nom à l'époque. Et c'est ça que Servette essaye de retrouver, de recapitaliser. Il est sur le chemin de le faire, oui.
Tu parles de René Weiler, c'est intéressant parce que la NZZ a sorti un papier révélation très récemment qui est très intéressant par rapport à ça, où notamment René Weiler, enfin on comprend que René Weiler a annoncé à ses joueurs qu'après une des défaites du mois de septembre, il ne saurait plus s'il serait encore sur le banc le lendemain ou pas. Je sais pas si tu as vu ça, Valentin, et je ne sais pas si ces déclarations-là te surprennent par rapport aux dirigeants grenats.
Non, c'est quelque chose qu'on a écrit d'ailleurs, qu'à un certain moment, que quand il y avait eu toute cette série de mauvais résultats, de résultats défavorables en championnat, Weiler était un petit peu désemparé et puis il était prêt à accepter son sort finalement. Et ce qui s'était passé, c'est que donc le match en question dont on parlait NZZ, c'était la défaite à Lucerne 2-0 où quand même Servette avait actionné un petit peu son renouveau. Derrière, il y avait eu un 2-2 contre Winterthur. Et ensuite, ils battent Lausanne dans le derby à Genève, le 30 septembre. Et c'est un peu à ce moment-là qu'il y a tout qui tourne, parce que aussi à ce match à la Praille, il y a Didier Fischer, donc président de la Fondation 1890, qui vient au match et qui, et ça, dans l'environnement servettien, s'est pris comme voilà, j'ai placé Weiler à cette place, c'est moi qui l'ai choisi, il a mon soutien, il restera entraîneur. Et puis, alors c'était tout à fait symbolique et tout à fait une coïncidence, mais. Derrière, il y a toute la dynamique servettienne qui s'est mise en place, avec les idées de Weiler qui ont été assimilées, certaines petites adaptations aussi, qu'on a déjà évoquées pendant ces dernières semaines. Mais tout ça fait qu'on arrive à la situation actuelle avec un Servette qui a fait 11 matchs, je crois, de suite en championnat sans perdre. Et c'est quand même très, très impressionnant. Et c'est ce Servette-là qu'il faut évaluer et juger pour la suite, pour le deuxième tour. Et parce qu'il partira avec les mêmes idées, avec la même impression de force physique, je pense, en termes d'intensité, de force athlétique. Servette est une des équipes les plus impressionnantes de championnat. Et quand tactiquement ça suit, donc avec une présence au deuxième ballon, une capacité à maîtriser les matchs, eh ben Servette fait des différences parce qu'il a des joueurs qui peuvent faire des différences. Et ce Servette-là, en l'état, vu comme il est devenu depuis 2 mois, il est vraiment très, très dangereux, je pense, pour à peu près toutes les équipes de Suisse et même peut-être pour certaines équipes européennes.
On a beaucoup de choses à voir ensemble aujourd'hui. Un dernier mot sur Servette, mais Mickaël, si tu peux imaginer les retouches à apporter durant cet hiver à cet effectif, qu'est-ce que tu fais si tu fais quelque chose?
C'est une très bonne question. Moi, je dois avouer que j'ai quand même un souci de profondeur personnellement, parce que on a quand même fait jouer par 2 ou 3 jeunes joueurs. Alors, je trouve ça très bien, hein, mais en Coupe d'Europe, j'ai vu Samba Dibalele qui était limité. J'ai vu que défensivement, peut-être qu'il manque quelqu'un pour remplacer quelquefois des latéraux. Je pense que vu le nombre de matchs que Servette avait cet automne, il manquait peut-être quand même un petit quelque chose en plus pour être vraiment là où on aimerait que Servette soit, c'est-à-dire dans les crampons de Young Boys. Donc pour moi, il manque peut-être un élément par poste pour compléter. Je dirais pas qu'il manque un titulaire, mais je dirais qu'il manque peut-être un gars par position qui pourrait apporter cette profondeur de banc qui est déjà, selon moi, quand même meilleur que les saisons dernières.
Ouais, Daniel, tu dis la même chose?
Oui, il y a bien des interrogations à se poser autour. Alors bon, là, ils cherchent un attaquant. C'est pas anodin. Il y a l'anticipation du cas Bedia. Il y a aussi le fait que, ma foi, Crivelli est souvent blessé. Il l'est encore là actuellement. Il va revenir pour le mois de janvier. On ne sait jamais. Il faut se poser des questions aussi sur le backup de Timothée Cognat. Servette n'a aucun profil de numéro 8 en percussion comme Cognat. Ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Hein. C'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, à ce poste en Super League. La défense centrale, ben, on voit qu'il René Weiler n'a pas une confiance immense avec Vouillot. Les deux titulaires, c'est systématiquement Rouillet et Séverin. Mais voilà, il va falloir peut-être aussi trouver quelqu'un à ce poste-là. Dans un monde absolu, effectivement, il faut aussi se poser la question des latéraux. Baron n'a pas été un bon supplément à Mazikou, et Mazikou lui-même a montré certaines limites au début. Ça a été mieux après, pendant un moment. Puis là, maintenant, actuellement, bah, de nouveau, défensivement, un peu des soucis. De l'autre côté, Tsunemoto, alors ça, c'est la bonne surprise. Il est plutôt en forme, même si ses derniers matchs, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, enfin, Servette n'a pas les moyens encore d'IB, ni la profondeur de banc d'IB. Donc, ils vont se construire gentiment, étoffer le contingent intelligemment. C'est en tout cas l'objectif.
Valentin, tu étais à Winterthur Lausanne ce week-end, dimanche, je t'ai lu, et donc j'ai lu du Antoine Bernet dans tes lignes. Il disait notamment que dixième, ça sonnait un peu comme dernier, si j'ai bien compris. Tu vois ça comme ça? Enfin, Lausanne termine donc dixième, et dixième jusqu'à la saison dernière, c'était la dernière place.
Ouais, mais devant bas, là.
Et le grand stade Lausanne aussi.
C'est sûr. Non, c'est pas... Il faut être honnête, ce n'est pas flatteur pour Lausanne d'être dixième de cette Super League annuelle. Ça dit quand même que Lausanne a eu certaines difficultés, notamment un petit peu sur la fin d'année, depuis la blessure de Sanchez. Alors oui, il y a eu cette victoire contre Lausanne, oui, il y a eu ce nul contre Servette, où on disait que Lausanne était supérieure, mais dans ce match-là, Lausanne devait faire la différence. Hier, tu joues à Winterthur, qui est la pire défense de la Ligue. Tout ce que ça veut dire, c'est que Lausanne a quand même, sans Sanchez, des soucis de création qui sont quand même assez marqués et qu'il va falloir régler d'une manière ou d'une autre. Et on constate à quel point le staff lausannois, alors hier c'était Hervas sur le banc, Manuel Hervas sur le banc, l'adjoint de Magnin, mais avec Magnin, il se cherche depuis la blessure, donc mi-novembre. Il y a eu d'abord la tentative Villiers à la place de Sanchez, il y a eu Labo. Hier, il y a eu Custodio dans une espèce de 10 de pressing, mais qui n'était quand même pas très... pas tellement à son avantage entre les lignes. Il va falloir trouver une solution. Je ne sais pas où elle est, je ne sais pas si ça passe par du travail, parce que peut-être que tu as quand même un élément dans cette équipe pour assumer ce rôle, pas forcément de la même manière que Sanchez, mais au moins assumer un petit peu ce rôle et donc s'y habituer. Peut-être qu'il faut aller chercher un autre joueur, mais là, Lausanne est un peu en difficulté parce que son contingent est actuellement plein. Il y a quand même pas mal de questions qui se posent à ce niveau-là et disons que si Lausanne avait eu cette créativité qu'on pouvait attendre de lui sur les derniers matchs, je pense qu'il serait pas dixième. Mais le fait est qu'il est dixième et que c'est quand même pas flatteur.
Michael, moi, tout ce que Valentin vient de dire, ce que ça me fait dire, c'est qu'il y a quand même un souci de manque de profondeur, dans le sens manque de qualité de la profondeur dans l'effectif du Lausanne Sport. Tu vois aussi ça comme ça?
Je vois surtout que, on parlait de Cognat à Servette avant. Là, je vois qu'il n'y a pas de plan B. En fait, Sanchez est un peu irremplaçable à Lausanne et contre des équipes contre lesquelles elle devait faire la différence. Alors, justement, c'est ça qui est marrant, c'est que contre Servette, Lausanne fait un bon match, mais parce que tu n'as pas forcément besoin d'un Alvin Sanchez, selon moi. Et peut-être que Lausanne joue différemment. Mais moi, j'étais au match contre Guetze, notamment. La première mi-temps de Lausanne est plutôt bonne d'ailleurs, mais il manque ce petit truc en plus. Il manque le petit détail qui te fait tourner le match en ta faveur. Si c'est 1-0 pour Lausanne à la pause, ça change tout. À la fin, ils perdent 5-0 contre Guetze. Je pense pas que c'est défensivement qu'il y a eu un gros souci. C'est juste que mentalement, tu sors de ton match, tu encaisses le 1-0, c'est fini, merci, au revoir. Mais là, sur ce match, j'ai vraiment vu l'absence de Sanchez, parce que je me dis, peut-être que s'il avait été là, c'était 1-0 pour Lausanne à la pause et ça change complètement la fin du tour du LS. Parce que si on regarde les points, alors oui, ils sont dixièmes, mais ils sont à 5-6 points de la barre. Et Ils ont perdu contre Getse et Winterthur sur les trois derniers matchs. Donc finalement, Getse et Winterthur, c'est des équipes qui sont juste devant. On aurait peut-être fait un tout autre bilan s'il y avait eu ne serait-ce que trois points supplémentaires contre Getse ou Winterthur. Et je pense que le gros point positif, c'est quand même de se dire que Lausanne est au contact, parce qu'à un moment, on a quand même eu encore plus peur que là où ils sont maintenant, hein, faut quand même l'avouer. Ils sont dixièmes, certes, mais ils sont plus proches de la sixième place que de la dernière. C'est ce que je retiens aussi.
Daniel, ce sera à toi de trancher. Est-ce que le Lausanne Sport manque d'idées? Est-ce que le Lausanne Sport manque de qualité? Ou alors, est-ce que tout va bien et qu'au final, c'est juste une question de circonstances et que Lausanne peut très bien finir 5 ou 6e sans souci?
Non, tout va pas bien à Lausanne, parce que sinon Lausanne n'aura pas fait le début de saison qu'il a fait, assez catastrophique, et qu'il paye encore aujourd'hui. Alors bien évidemment, l'absence d'Alvin Sanchez est très handicapante pour un club qui a besoin justement d'avoir quelqu'un qui est capable de faire la différence entre zone 2, zone 3, et pour percuter, pour créer du danger, ce que Lausanne a bien des difficultés à faire. Mais le fait est que Lausanne a eu de la peine au début à s'adapter à la Super League, que ça s'est fait un peu dans la douleur et qu'au moment même où les choses commençaient à prendre un petit peu de liant, ben, il doit composer sans Alvin Sanchez et que là, on voit les limites quelque part du collectif lausannois privé de cet élément-là. Et c'est compliqué de définir maintenant ce que va devenir le Lausanne pour les prochains mois, enfin pour l'année prochaine, quand il faudra lutter pour être du bon côté de la barre, si c'est encore possible, parce que d'autres équipes vont faire des efforts considérables pendant l'hiver pour accrocher le bon wagon, à commencer par Bâle. David Degen l'a déjà annoncé, il y aura beaucoup de changements. Donc, il va y avoir une grosse concurrence et Lausanne devra y faire face. Est-ce que Lausanne est suffisamment armé en termes de profondeur de banc et de créativité? Moi, j'en avais parlé avec Ludo Magnin après le 1-1, après la défaite 2-1 contre Servette au stade de Genève. Et puis, on avait parlé du déficit de qualité à part Alvin Sanchez. Lui n'était pas d'accord. Il disait non, j'ai de la qualité. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est de la méthode Coué de se dire il y a de la qualité dans ce contingent, parce que hormis Sanchez, moi, je n'en vois pas autant que lui. Mais je ne demande qu'à être surpris.
Et il fait très peu bouger son équipe. Et ça, c'est quand même ça témoigne du manque de confiance qu'il peut avoir envers l'intégralité de son contingent.
Oui, mais Valentin, tu parlais avant d'un contingent qui est plein. On sait qu'aujourd'hui, la SFL est beaucoup plus permissive au niveau des licences que tu peux accorder ou pas, que tu peux reprendre, enlever à des joueurs. On sait aussi que Toshi Suzuki ne devrait pas finir la saison ici et partir cet hiver. On fait quoi en priorité au LS cet hiver? Est-ce qu'on a besoin d'un bon défenseur central à côté de Noé Dussen, un milieu à la place d'Alvin Sanchez, un tueur devant?
Tueur, pour moi, c'est pas ce qu'il y a de plus important. C'est plutôt, il faut un élément offensif, un élément défensif. Un élément offensif parce que, donc, on a parlé de Sanchez, faut quand même partir du principe que Diabaté sera sûrement à la CAN pendant quelques semaines avec le Mali. Bon, Kalou ne devrait pas y aller avec le Nigeria, ça fait quand même 2 ou 3 ans qu'il n'a pas été appelé. Mais voilà, il faut, ne serait-ce que pour avoir un petit peu de concurrence, un petit peu de variété, un petit peu. Enfin, je vois mal Lausanne commencer l'année avec le seul ailier pour animer le côté droit, par exemple. Voilà, concrètement. Je pense qu'il faut aussi un élément défensif parce que, mine de rien, c'est quand même assez faible derrière. Guillère, Daman Lee, Poati, c'est pas encore trop mal, mais je pense que Dussen a tendance un petit peu à surjouer parce qu'il est un petit peu seul derrière. Et le fait qu'il surjoue, bah, ça lui fait faire aussi des erreurs qui peuvent se payer quand même assez cher. Et hier, il a la chance que Di Giusto marque pas 2 minutes avant parce qu'elle était pour lui aussi.
Il a de la chance aussi contre Servette, hein, puisqu'il fait sa passe latérale et si Bédia met le 2-0, Lausanne perd ce match-là. Même face à un très mauvais Servette.
Il prend peut-être un petit peu trop de responsabilité par rapport à ce dont Lausanne a vraiment besoin. Donc il faut en effet un autre élément défensif fort. Alors dans l'axe peut-être sur le côté, avoir peut-être que Ouzic peut aussi reprendre sa place et puis prendre un petit peu le rôle qu'on attend de lui. Mais oui, je pense qu'un élément défensif, un élément offensif, pour moi, c'est la priorité.
Michael, on avance un peu dans les sujets. On sait que la Super League est passée à 12 équipes cet été. Est-ce que tu as vu une vraie révolution au niveau des matchs de foot auxquels tu as assisté cet automne? Ou est-ce que en qualité de spectateur, de supporter, ça ne change pas grand-chose?
Bah, honnêtement, je pense que le téléspectateur lambda, il sait peut-être même pas encore qu'il y a eu un changement de système, parce que finalement, c'est vrai que les matchs, on voit pas de différence. On peut parler du niveau des deux promus, notamment du Slow et d'Yverdon, mais en même temps, il y a des saisons à 10 équipes où il y avait quand même une équipe qui était très faible aussi. C'est arrivé avec des Vaduz, certaines saisons. On a eu quand même des saisons horribles du FC Sion également. Donc, je pense qu'au niveau qualité de jeu, il n'y a pas, on ne voit pas cette différence pour le moment. La grande différence, c'est clair, elle viendra dès le mois d'avril. Enfin, si je ne dis pas de bêtises, je n'ai plus la date exacte, mais dès le dernier tour où on répartira les 6 premiers et les 6 derniers. Après, là, sur ces tours-là, le seul point positif, moi, que j'ai en tant que commentateur sportif, c'est que ça me donne plus d'affiches différentes. Donc c'est sympa.
Daniel, est-ce que cette Super League à 12 a changé ta vie et a changé la vie des gens que tu connais qui vont voir du foot?
Non, absolument pas. Mais pour l'instant, parce que moi, j'attends de voir ce qui va se passer justement ce printemps, une fois que le troisième et dernier tour, entre guillemets, sera joué. À ce moment-là, il va y avoir la barre qui va scinder le championnat en deux. Donc, les 5 derniers matchs pour le titre, les 5 derniers matchs contre la relégation. Et pour avoir vécu, comme je suis un vieux garçon, la formule Rumeau avec la barre, j'en connais ses effets pervers. Autrement dit, quand la crispation de savoir de quel côté de la barre tu vas te trouver arrive, et ça précède toujours de quelques matchs l'échéance, eh bien à ce moment-là, tout se crispe, ça donne des matchs qui sont beaucoup plus moche à voir, et surtout ça influe sur le choix des entraîneurs qui vont à ce moment-là changer d'orientation, changer de choix ou ne plus changer de choix d'ailleurs. Bref, les effets pervers de la réintroduction d'une barre, même si elle est si c'est marginal par rapport à la formule Rumeau de l'époque, sont souvent assez pernicieux. Et sur la longueur, je me questionne aussi sur les effets que ça peut avoir avec les sponsors qui vont dire, ben, moi, je vais vous donner tant d'argent si vous êtes du bon côté de la barre et moins si vous êtes du mauvais côté. Alors, j'extrapole, peut-être que je suis un peu paranoïaque, mais la barre, je suis pas un grand fan et j'attends de voir encore ce que ça va donner pour ce championnat-là. Donc, je réserve mon jugement.
Fondale, pour aller fondamentalement, je suis d'accord avec Daniel. Par contre, la différence par rapport à la formule Rumeau, c'est que là, elle intervient quand même après 33 journées et pas 22 à l'époque. C'est quand même une différence qui est notable. Et je pense qu'il y aura quand même pas mal d'écarts qui seront déjà faits quand on se rapprochera de la barre. Parce que, mine de rien, quand même, je trouve que cette formule à 12, elle donne un peu plus de disparité entre certaines équipes. Il y a quand même des équipes qui ont un écart avec d'autres. Alors, il y a un ventre mou qui est encore assez important à l'heure actuelle après 18 journées. Mais je ne suis pas sûr qu'il dure encore très, très, très longtemps jusqu'au mois d'avril. Côté 4, 5 équipes qui se battent autour de la barre, oui, mais je ne suis pas sûr qu'il y en aura 10, quoi.
Valentin, je serais encore curieux de t'entendre là-dessus parce qu'une des vraies questions qu'entourait enfin, le passage à 12, c'était l'intégration de d'Yverdon Sport et de Stade Lausanne. Ça a été accompagné de nombreuses critiques, notamment de la part de la Suisse alémanique. Est-ce qu'on y voit plus clair aujourd'hui après 18 journées? Est-ce qu'on peut juger vraiment de l'intégration de ces deux clubs? Ou est-ce qu'au final, on est exactement enfin, ce à quoi il fallait s'attendre?
Il y a plusieurs niveaux sur lesquels je peux répondre à la question. Au niveau sportif, que Stade Lausanne soit en dessous, je pense qu'on s'y attendait un petit peu à peu près tous. Yverdon, je pense que son recrutement, mine de rien, l'a quand même permis d'être à peu près à niveau, même si ça va être compliqué jusqu'au bout. On peut discuter de tout ce qui s'est passé, mais si je regarde simplement sur la base de ça. Maintenant, il y a une autre question, c'est qu'on voit que c'est des petits clubs, en fait. On voit par rapport aux autres qu'on est vraiment dans un club niveau, allez, en termes structurels, niveau Challenge League. Il n'y a pas, que ce soit en termes d'accueil au stade, que ce soit en termes de structures auxquelles les structures ont à disposition les joueurs. Je parle par exemple le médical. Les joueurs d'Yverdon aujourd'hui, s'ils veulent se faire soigner, enfin s'ils veulent consulter un médecin spécialiste, eh ben ils doivent aller à Neuchâtel. Ils peuvent pas les regarder. Il y a personne à Yverdon qui peut les accueillir pour ça. En tout cas, c'était le cas il y a quelques semaines. Donc voilà, c'est tout un ensemble de choses qui fait montre de ces disparités qu'il peut y avoir entre allez, les 9 clubs qui étaient habitués à la Super League avant ça, et puis les 3 ou 4 qui sont joints à eux. Winterthur est un petit peu aussi dans ce cas-là, même si c'était déjà l'année passée. Donc Oui, enfin, on est content de les avoir. Ça peut faire des matchs sympas, des fois des matchs un peu plus ouverts aussi. Est-ce que c'est des clubs qui vont à terme jouer au tableau de Super League? Enfin, je ne crois pas, non.
Michael, si on va un peu plus loin pour parler de Stade Lausanne et Yverdon, j'ai une question à te poser. Est-ce que ces deux clubs ont péché par gourmandise? Est-ce que en changeant de coach après une dizaine de matchs à peu près, c'était pas exactement au même moment pour les deux clubs, mais voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de ouais, c'est pas mal ce qu'on a, mais on aimerait encore un peu plus et on en a oublié un peu ses moyens limités et aujourd'hui on se rend compte que en fait, c'est pas un homme qui peut tout changer.
Je pense qu'il y a quand même une différence entre Yverdon et le Slow à ce niveau-là. Je pense qu'effectivement, Yverdon s'est vu trop beau et s'est dit, bah voilà, c'est avec Schellenbaum, on va pas pouvoir aller plus loin. En plus, peut-être qu'il n'était pas d'accord avec certaines choses de la direction. Et je pense que là, on peut le dire. Enfin, moi, je le dis clairement, ils n'ont pas fait le bon choix en virant Schellenbaum à ce moment-là de la saison. Pour le Slow. Moi, je mets quand même des pincettes parce que bah, y a un entraîneur qui voulait jouer d'une manière et peut-être que le club s'est quand même dit au bout d'un moment, si on joue de cette manière-là toute la saison, ça ne va pas le faire. C'est-à-dire, Anthony Breza, il l'a toujours dit et il ne le renie pas même maintenant, il l'a encore dit sur notre plateau hier, il a un football offensif, il n'allait pas changer ça, même s'il joue en Super League, même si des fois il se prenait des 5-2, etc., il n'allait pas changer ça. Donc, au bout d'un moment, c'est aussi une discussion à avoir avec le club. Le club lui disait peut-être essayer de jouer plus défensif. Il ne voulait pas le faire. Au bout d'un moment, il faut peut-être changer. Et bon, on remarque qu'en ce moment, Dionisio n'a pas pu faire vraiment le travail que voulait le Slow en cette fin de tour, enfin, cette fin d'automne, c'est-à-dire faire quelques points pour rester au contact. En jouant plus défensif, ça ne marche pas mieux. Mais je pense quand même que sur les ça fait quoi? Ça fait du 15 matchs environ, ouais, 15 matchs qui restent. Jusqu'à la première, enfin jusqu'au moment où ce sera scindé, bah il a quand même le temps de travailler sur une base plus solide peut-être que ce que faisait Anthony Breza. Du coup, c'est pour ça que je mets quand même Yverdon et Slow dans deux catégories différentes. Le Slow a, je pense, bien réfléchi à changer. Yverdon peut-être a pris une décision trop hâtive et qui n'est pour moi pas la bonne.
Daniel, tu vois aussi ça comme, enfin, est-ce que tu vois ça comme un péché de gourmandise de changer ton coach dans ces moments-là? Ou est-ce que tu rejoins Michael et c'est plus complexe que ça?
Moi, ouais, je rejoins assez Michael sur l'analyse d'Yverdon. Avec Schellenbaum, Yverdon savait ce qu'il avait. Alors, ça manquait sans doute de panache, mais il y avait un groupe qui adhérait à son système, à ses idées, et qui était conscient, sans doute même lucide, de devoir passer par l'abandon de certains principes purement de jeu pour avoir quelques résultats. Et les résultats étaient là. Maintenant, ben, Mangiarati est là. Alors, on a beaucoup plus de construction depuis l'arrière. C'est très louable. Dans un monde idéal, c'est même sain pour le football. Mais est-ce que ça l'est pour Yverdon? Ben, manifestement, c'est ce qu'a voulu ce qu'ont voulu les nouveaux propriétaires américains. Pourquoi pas? Le fait est qu'on va au-devant de difficultés. Et je ne sais pas si ça a été le bon choix. Je ne le pense pas non plus. SLO, effectivement. On peut se poser plein de questions, mais indépendamment des personnes, que ce soit Dioniso ou bien Anthony Breza, est-ce que vraiment SLO, quel que soit l'entraîneur, a les moyens, avec le contingent actuel, de sauver sa place en Super League? C'est une question qui reste ouverte, bien évidemment. Le championnat n'est pas terminé, mais eu égard aux difficultés que rencontre ce club depuis le début de la saison, malgré quelques coups d'éclat, eh bien oui, la question demeure maintenant. Pour un schéma plus large par rapport à la présence de ces clubs-là, comme l'a dit Valentin, il y a quelque part un anachronisme et un paradoxe. La Swiss Football League veut tout faire pour que son championnat phare de Super League soit quelque chose de très professionnel, d'infrastructurellement prêt à tous les niveaux. Et ben, il y a tout d'un coup un SLO avec une Pontaise désuète et zéro public. Un stade qui n'est pas un stade de foot, autrement dit. Il y a le stade municipal d'Yverdon, qui n'est pas non plus vraiment un stade de foot, même s'il n'y a pas une piste d'athlétisme autour. Il a fallu le corriger pour qu'on puisse avoir des luminosités adéquates pour la télé. Enfin, bref, on est loin de ce qu'espère la SFL en termes de naissance de structures professionnelles et d'encouragement à ça auprès des clubs. voilà, la question, elle est aussi là.
J'aimerais juste encore qu'on revienne par rapport à ces deux clubs sur un cas individuel par club. Valentin, en dernière nouvelle, Varoltazar avait un peu le mal du pays quand il jouait à Servette, un peu de mal avec la Suisse romande. Et aujourd'hui, c'est un peu le meilleur atout offensif d'hiver dans sport. C'est quoi, c'est l'ère de la Suisse romande lui va maintenant?
Je pense qu'il est surtout dans un effectif où il est un des joueurs les plus importants. Et on considère son importance aussi dans la manière de jouer. On le passe à des postes qui lui conviennent vraiment, lui donne des responsabilités. Il a peut-être aussi quelques années en plus. Il a peut-être un petit peu mûri. Mais c'est sûr que si Yverdon doit avoir un espoir de maintien, je pense qu'à terme, Yverdon l'aura le maintien. Mais en tout cas, d'être compétitif jusqu'au bout, ça passe notamment par Tazar. Ça passe aussi par Lizero, ça passe aussi par d'autres joueurs comme ça, peut-être Mayus quand il reviendra. Mais oui, Tazar est très, très, très bon en ce moment. Il assume les responsabilités qu'on lui donne. Et c'est en effet un des joueurs clés d'Yverdon actuellement.
Mais tu dis, si Yverdon devait avoir un espoir de maintien, et tu penses qu'il l'aura, alors tu vois qui avec SLO pour tomber? Quoi de barragiste, on dit, hein, voilà.
Ouais, ouais, tout à fait, non. Peut-être Winterthur, c'est quand même pas très rassurant à bien des aspects. Peut-être que Yverdon sera barragiste, hein. Moi, ils peuvent s'en sauver en étant barragiste. Getse reste sur une très bonne série, mais je suis pas sûr que sur la longueur ça tienne aussi à ce point-là. Il y a pas non plus autant d'équipes qui sont protégées que ça. Je pense que oui, Ball s'en sortira, ça me paraissait évident, mais entre Winterthur, Getse, Yverdon, pour moi, c'est un combat qui peut être long là, à ce moment-là.
Mickaël, le Slow va avoir pas mal de peine à éviter la dernière place. Est-ce que tous ses espoirs reposent sur les épaules d'Ismaël Garbi?
Oula, bonne question. Non, bah, tout, tu peux pas. Quand tu as un club comme ça, en plus de néo-promu, de bas de tableau, si tu reposes tous tes espoirs sur un seul joueur offensif, c'est qu'il y a un souci. Après, oui, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, mais il y a des bons joueurs hein, au Slo de manière générale. Moi, j'aime beaucoup Aydini qui, pour moi, était. Je ne pensais pas qu'il avait un bon niveau de Super League et je trouve que c'est un des joueurs qui sort du lot en ce moment. Le problème, c'est que tu n'as pas un effectif et même pas un 11 qui te permet de vivre en Super League. Je pense que tu as un 11 qui te permet de survivre en Super League, dans le sens où sur un ou deux matchs, tu es capable de tenir la dragée haute à une équipe, de viser un nul, de tout un coup avoir un coup de réussite, de gagner un match. Mais sur une saison, on voit clairement que c'est l'effectif le plus faible. Et là où on dit Yverdon, et Getse, par exemple, sont peut-être les adversaires directs en bas de tableau. Bah, eux, ils vont recruter 2-3 joueurs encore cet hiver pour améliorer l'effectif. Ball aussi. Alors, Ball, on ne les met même pas dans le panier, mais j'ai même envie de dire le LS, on en parlait avant, il y aura une de retouches. Est-ce que le Slo a les moyens de faire des retouches qui vont lui permettre d'être meilleur? Je ne suis pas convaincu. Il y aura des retouches, mais ce ne sera pas, ce sera pas des joueurs exceptionnels. Garbi, c'était une bonne pioche, ça, c'est vrai.
On va entamer le dernier chapitre de l'émission parce qu'on arrive gentiment au bout. 5 mois de compétition derrière nous, 18 matchs par équipe. Daniel, qu'est-ce que tu retiens? Est-ce que tu as un coup de cœur de ce qui s'est passé cet automne sur nos pelouses?
Bon, j'ai bien aimé ce Saint-Gall qui est imbattable à domicile. Je crois qu'ils en sont maintenant à 9 victoires de suite à domicile. Ben voilà, ça forge et ça entretient la réputation. Avant, c'était l'Espenmose. Maintenant, c'est un peu plus loin, mais l'esprit est toujours là, le public est toujours là aussi. Et puis, on voit ce Saint-Gall qui est deuxième maintenant, derrière IB. Malheureusement, Servette a raté le coche, mais je les mettrai aussi dans les coups de cœur pour le chemin parcouru. Il ne faut pas oublier que même dans les passages les plus compliqués de Servette durant cet été, Servette n'a perdu que 3 matchs en championnat cette saison. Donc, ils ont souvent avancé timidement avec des nuls avant cette belle série de victoires, 7 de suite. Maintenant, ils sont invaincus depuis 11 matchs en championnat. Donc, il y a un chemin intéressant qui se précise aussi. Et Servette doit confirmer maintenant, dans la deuxième partie de saison, qu'il est capable de lutter pour le podium, voire plus, pourquoi pas. Sinon, au niveau des déceptions, ben, ce n'est pas une déception, c'est une confirmation, le SLO. bien évidemment, qui avait peu d'espoir et qui en a peut-être encore moins aujourd'hui. Lausanne, pour moi, fait partie des déceptions. Je pensais que Lausanne, avec la promotion, allait pouvoir... Je disais Lausanne allait pouvoir continuer sur un certain élan. Et puis, même si la promotion a été compliquée, mais voilà. Et puis sinon, la grosse déception, la grosse surprise. Mais en était-ce vraiment une quand on perd des joueurs comme Amdouni, Diouf et d'autres. Voilà, Ndoye, tout ça. Est-ce que c'en est encore une? C'est Bâle qui a touché le fond, qui essaye de rebondir maintenant. Je mets encore un bémol. Rebondir avec Celestini, c'est pas toujours facile des fois, parce que sur la longueur, des fois c'est compliqué. Pour l'instant, le chemin qui est pris existe, mais il va falloir confirmer ça aussi.
Là, je me demandais si l'un de vos coups de cœur allait être le FC Bâle de Fabio Celestini en comparaison avec le FC Bâle du début de saison. Valentin, de ton côté, coup de cœur, déception, tout ce que tu as.
Non, coup de cœur, j'avais aussi noté Saint-Gall parce que je trouve que c'est au-delà de. Alors, il y a les résultats qui sont extrêmement bons, mais il faut quand même se rendre compte de la qualité de l'effectif de Saint-Gall. À mon avis, on met facilement 3, 4, en tout cas 4 équipes devant, 4 contingents devant de Super League. Devant Saint-Gall. Alors franchement, c'est ce que fait Zeidler avec ces joueurs-là. C'est quand même assez impressionnant. Je ne sais pas si ça tiendra jusqu'au bout. Je ne sais pas jusqu'où ça pourra aller. Mais franchement, à ce niveau-là, faire aussi renaître Bastien Thomas, qui a fait un très bon match le jour contre Zurich, de donner de la confiance à Goebbels, ressortir à Colo, qui est bien jouable, découvrir Zanotti. Enfin, c'est des joueurs comme ça. Je trouve que ça mérite d'être signalé.
Par contre, je m'excuse, mais Saint-Gall à l'extérieur, c'est presque pas une équipe. Hein.
C'est clair.
C'était plus bac.
Plus de victoire, c'était contre à la Pontesse contre Stade Lausanne. Sinon, il y a un joueur que j'ai bien aimé. Et puis, c'est plus sa manière de jouer que ce qu'il peut encore faire à ce niveau-là. Mais il est un petit peu symbole de ce Lugano qui essaye pas mal de choses, qui est très expérimental très souvent. Mais je trouve que la saison que fait Albion Haïdari est très très intéressante. Il progresse beaucoup. Défenseur central gaucher 2003 suisse. Je pense qu'on peut envisager qu'il puisse être intéressant pour l'avenir. Surtout que Crochet Torti n'hésite pas à le faire rentrer à l'intérieur, à le faire monter très haut. Enfin, et il prend beaucoup de responsabilités dans le jeu. Même si hier il fait pas un super match contre Servette, mais les matchs qu'il a fait les dernières semaines, j'ai trouvé ça très très intéressant. Niveau déception, c'est plus pas des coups de gueule, mais il y a des choses qui ont tendance un petit peu à m'énerver. Le IB, ce qu'a fait IB sur ses buts de saison, j'ai quand même pas été très convaincu. Et je trouve qu'ils ont quand même pas mal de chance, même s'ils ont bien fini l'année, ils ont quand même pas mal de chance d'être là où ils sont actuellement. Bo Henriksen, on a tendance à beaucoup parler de Ludovic Magnien et de son attitude sur les bancs. Je crois que Bo Henriksen, il est quand même pas en reste.
Il a fait très fort ce week-end.
Ça devient insupportable. Et puis, alors en plus, ce qui se permet de dire en interview auprès de la com son club, je pense que de toute façon, que Saint-Gall ne trouve jamais des idées contre son FC Zurich. On a vu quand même que samedi, c'était un petit peu différent. Et ça a bien motivé, je crois, les joueurs saint-gallois. Et au-delà de ça, on parlait de la Super Ligue à 12. Un des arguments qui avait été vendu, c'était que ça me permettrait de valoriser la formation. Je vous suggère d'aller regarder qui sont les jeunes joueurs locaux qui ont joué et dans quel club est-ce qu'ils jouent. Il y a des clubs comme Servette, par exemple, qui ont fait jouer 2 minutes à un joueur de moins de 21 ans formé localement. Théo Magnien. Le seul club qui s'en sort bien, en gros, c'est Lucerne qui n'hésite pas à faire jouer des jeunes.
Donc voilà. Intéressant. Mickaël, tu as eu le temps de potasser un peu tout ça. C'est à toi que va revenir le mot de la fin. On t'écoute.
Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, du coup je varie un peu les plaisirs. Coup de cœur, je dirais Marco Schellibaum. En tout cas, l'hiver dans le sport de Marco Schellibaum, qui est parti quand même avec 4 victoires, 4 nuls, 4 défaites, un bilan honnêtement très bon avec un club néo-promu. Il a composé un puzzle, ce que d'autres clubs n'arrivent pas à faire, comme le FC Bâle en début de saison, comme Getse en début de saison. Et je reviens sur le fait que je ne comprends pas le changement d'entraîneur. Du coup, c'est mon coup de cœur, c'est Marco Schellibaum. Autre coup de cœur, Derek Kutesa à Servette. qui pour moi est en train de faire la meilleure saison, je pense, de sa carrière. Et on a déjà discuté de ça dans ce podcast, peut-être au point de lui ouvrir gentiment les portes de l'équipe nationale, à voir. Mais il est encore trop irrégulier parce qu'il y a sur certains matchs, on ne le voit pas, malheureusement. Mais ça reste quand même pour moi désormais le pendant de Stevanović. Avant, on disait qu'il n'y a que Stevanović qui peut faire des différences sur les côtés à Servette. Bah, là, maintenant, on voit que... on est capable à Servette de faire des différences sur les deux côtés. Et je vais plutôt partir sur un flop ensuite. Ben, c'est presque un coup de gueule, c'est Guetze, parce que c'est une équipe qui m'énerve un peu, dans le sens où c'est une équipe, on l'a déjà mentionné aussi, qui n'a plus vraiment l'âme de cette formation historique de Suisse qui a enchaîné les titres. Et en plus, quand je vois certains matchs de Guetze, je me dis... Mais il y a énormément de qualité. Il y a des joueurs, honnêtement, moi quand je vois un Tsi Ndenge, je me dis que c'est quasiment un des meilleurs milieux défensifs du pays en ce moment. Et je me demande comment c'est possible de voir Guetze, bah justement, qui n'arrive pas à créer quelque chose autour de cet effectif qui, pour moi, selon moi, est plutôt bon et ne doit pas se retrouver à la lutte contre la relégation. Donc mon coup de gueule est Grasshopper pour ça.
Ah, puis une dernière chose, on ne peut pas quitter cet épisode sans parler de ça, mais une Super League à 12 sans le FC Sion, Daniel, ça t'inspire quoi?
Alors moi, je trouve ça dommage, parce que je préférerais voir des Sions, et je vais être méchant avec le SLO, d'accord, mais je préfère voir des Sions Servette que des Sions, que des SLO Servette. Donc voilà, Sion fait partie prenante des clubs légendaires de Suisse. Ils apportent quelque chose dans les derbies et même au-delà. Et voilà, il faut souhaiter que Sion soit un club qui revienne la saison prochaine en Super League. Ils sont en tête actuellement en Challenge League, à la lutte avec Thun. Peut-être que les deux réintégreront la Super League la saison prochaine et pour lui donner un corps un petit peu plus légitime. Pour autant que les menaces de Christian Constantin ne se mettent pas à exécution, autrement dit qu'il se retire du football professionnel, faute d'avoir pu construire lui-même son propre stade.
Ton message d'espoir sera la conclusion de cette année de podcast. Merci à vous pour votre engagement tout au long de la saison. Merci de nous avoir écoutés et de très bonnes fêtes à vous tous. Merci beaucoup. Merci les gars.
Bye bye.
Merci.